Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis le bon pasteur. C'est une allégorie. Une allégorie, c'est une métaphore, une image. Mais une métaphore prolongée, qui ne porte pas seulement sur un mot, mais sur tout un récit. Et notre Seigneur a souvent employé ce moyen pour faire comprendre à ses auditeurs les grands mystères de la vie surnaturelle. Notre Seigneur parlait en parabole ou en allégorie. Il faisait cela parce que c'est plus parlant, plus éloquent qu'un exposé doctrinal théorique. Le langage des images a quelque chose d'universel. Il est compris des savants comme des simples. Le pasteur ici, c'est évidemment notre Seigneur, le Christ. D'ailleurs, il dit « Je suis le bon pasteur ». Et vous savez que dans les catacombes, cette image du bon pasteur a été très souvent représentée. Les catacombes des premiers siècles de l'Église sont souvent, les parois de ces catacombes sont souvent couvertes de fresques ou de mosaïques, et parmi ces fresques, on retrouve très souvent la peinture du bon pasteur. C'était un symbole que les premiers chrétiens chérissaient tout particulièrement et qui leur permettait de représenter notre Seigneur d'une manière que tous les chrétiens comprenaient parfaitement. Et puis les brebis, ce sont les âmes. Mais les âmes dans leur rapport surnaturel avec notre Seigneur. Notre Seigneur a souvent d'ailleurs, là encore, employé cette image. Vous connaissez la parabole de la brebis perdue, ou encore dans Saint Jean, notre Seigneur, quand il confère à Saint Pierre le primat sur l'Église, il lui dit « Paix mes brebis, paix mes agneaux ». En d'autres termes, la relation qui unit notre Seigneur et les âmes est analogue à celle qui unit le pasteur et son troupeau. Avec cette différence essentielle, toutefois, que cette relation est surnaturelle, alors que celle d'un berger avec ses bêtes est purement naturelle. Ainsi, aucun berger ne sacrifie sa vie pour ses brebis, même pour les sauver, alors que c'est ce que fait notre Seigneur. C'est même ce qui caractérise vraiment le bon pasteur. Et l'Évangile nous indique, dans le passage que nous venons de lire, deux qualités spéciales du bon pasteur. D'abord, son admirable esprit de sacrifice. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et puis, la parfaite connaissance qu'il a de ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors, développons ces deux points. Jésus dit donc, je suis le bon pasteur. Le grec dit même « le bon, le pasteur » en répétant l'article. Cela veut dire le pasteur par excellence, le pasteur promis, l'unique pasteur, le seul vrai pasteur, dans toute l'acception du terme, par opposition aux autres pasteurs, c'est-à-dire aux hommes à qui notre Seigneur confie la charge de pasteur pour garder son troupeau, pour paître son troupeau, l'Église. Pourquoi ce bon pasteur est-il bon ? Pourquoi ce qualificatif ? Il est bon, il est même le seul vraiment bon, parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et il donne sa vie pour ses brebis parce qu'il les aime. La raison profonde, c'est cela, c'est la charité. Dieu est charité. Il donne sa vie. Le grec dit même qu'il dépose sa vie, ce qui marque mieux le caractère libre, volontaire du sacrifice de notre Seigneur. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et c'est cela qui caractérise précisément le bon pasteur. Cette image du bon pasteur évoque cela. Le don de la vie que notre Seigneur fait pour donner la vie à ses brebis. C'est comme sa marque. Et d'ailleurs, si vous regardez dans un évangile, le passage que nous venons de lire, en prolongeant un petit peu votre lecture, au-delà de ce que l'Église a retenu pour l'évangile d'aujourd'hui, vous verrez qu'entre les versets 11 et 18, il est 5 fois fait mention de ce don que notre Seigneur fait de sa vie, de son sacrifice. C'est dire l'importance de ce mot, de cette réalité. Et il donne toute sa vie, et il la donne non seulement d'un seul coup, mais comme goutte à goutte, ce qui est beaucoup plus parfait, comme en la distillant, ce qu'il a fait à travers les innombrables souffrances de sa passion. Dans toutes ces souffrances de la passion, on voit cela clairement quand on étudie le linceul de Turin. beaucoup des supplices que notre Seigneur a subis étaient en eux-mêmes des supplices mortels. Il aurait dû mourir plusieurs fois, mais c'est lui qui donne sa vie, personne ne la lui prend. Et puis, il donne non seulement sa vie pour tous, globalement, mais il la donne tout entière pour chacune de nos âmes, ce qui aussi est beaucoup plus parfait, ce qui est extraordinaire. On peut presque dire, on peut même dire, il y aurait eu une seule âme à sauver, notre Seigneur aurait subi les mêmes souffrances. Alors c'est l'amour qui explique ça, la charité, l'amour des âmes qui explique ce don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est notre Seigneur lui-même qui a dit cela. Et vous vous souvenez ce que nous avons lu dans l'évangile du jeudi saint au soir, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, usque in fine, c'est-à-dire non seulement jusqu'à la mort, jusqu'à en mourir pour eux, mais il les aima avec une charité extrême, comme le montre l'atrocité de ses supplices. Par opposition, notre Seigneur parle ensuite du mercenaire. Mais le mercenaire est celui qui n'est point le pasteur. Au tableau du bon pasteur qu'il est lui-même, Jésus oppose l'attitude du mercenaire et il le définit négativement. Il n'est point pasteur. Il est même tout le contraire du pasteur. Les contraires se font connaître l'un l'autre, disaient les anciens. Par cette peinture du mercenaire, nous pouvons mieux comprendre ce que c'est que le pasteur, le bon pasteur. Et du mercenaire, notre Seigneur dit deux choses. D'abord, les brebis ne lui appartiennent pas. Cuius non sunt oves proprie, les brebis ne lui sont pas propres, elles ne sont pas sa propriété, comme c'était le cas du bon pasteur. Et par suite, quand il voit le loup, il fuit, parce qu'il a nul souci des brebis, précisément. Le loup, dans le grec, là aussi, on peut le noter, c'est intéressant, il y a l'article. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel loup, ce n'est pas un loup de passage, c'est le loup, l'ennemi perpétuel et universel des brebis sans défense. C'est-à-dire Satan. Et avec Satan, quiconque est ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ est des âmes rachetées par lui. Les démons, les faux prophètes, les hérétiques, les corrupteurs de tout genre. C'est toutes ces catégories qui sont ainsi désignées par le loup. Alors le mercenaire voit le loup. Vidette, il le voit. Et le mot, là aussi, est évocateur. Comme le dit l'expression, il a l'œil. Il voit, il sent l'approche du loup. Il a même une certaine capacité de clairvoyance ou de prévoyance qui, parfois, peut être même plus, avec davantage d'acuité que les pasteurs. C'est un fait d'expérience. Souvent, les ennemis de l'Église voient plus clair que les pasteurs eux-mêmes. Notre Seigneur le dit d'ailleurs dans la parabole du serviteur infidèle, de l'intendant infidèle. Les fils de lumière sont parfois moins avisés que les fils des ténèbres. Pourquoi ? Parce que ce mercenaire est intéressé. Alors il discerne tout de suite en face des événements ce qui est à son avantage ou à son désavantage. Il voit. Et ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est son propre salut, son intérêt particulier, et non pas le salut ou le bien commun du troupeau confié à sa garde. Contrairement au pasteur, il n'a pas l'amour des brebis. C'est ça qui le caractérise. Il a uniquement l'amour de son seul bien propre, de son intérêt. Et c'est pourquoi il abandonne au moindre danger. Il fuit, il abandonne les brebis à leur sort, sans s'inquiéter de ce qui va leur arriver. Il fuit parce qu'il n'aime pas, à la différence du pasteur qui donne sa vie parce qu'il aime. La fuite, en effet, on voit ça quand on étudie le traité des passions, la fuite est à l'opposé de l'amour. Quand on aime, on est attiré et on reste, quel qu'en soit le prix. En revanche, en face de ce qui répugne, en face du mal ou de ce qu'on juge mal, on fuit. Et avant d'être physique, la fuite est affective, elle est morale. Le mercenaire n'est attaché à rien sinon à son bien propre. Il a donc toujours plus ou moins le cœur en fuite. Il fuit son devoir, il fuit ses responsabilités, il fuit la difficulté, tout ce qui coûte. Tout ce qui s'oppose à son intérêt. Et donc, il s'enfuit en face du loup. parce qu'il y va de son intérêt, même si, au fond, il est dans le même camp que le loup. Il est lui aussi ennemi des brebis. Alors, il se pince logiquement ce qu'on est en droit d'attendre. Le loup ravit les brebis et les disperse. Un double malheur attend les brebis qui sont ainsi abandonnées. Quelques-unes deviennent la proie du loup, qui les saisit. Les autres se dispersent dans leur effroi. Cette scène dramatique, c'est tout à fait le tableau de la situation présente. Quand on y réfléchit, quand on regarde autour de nous, quand on analyse un petit peu les événements, spécialement dans l'Église, on voit bien que le drame de l'époque actuelle, c'est qu'à la place de pasteurs, nous avons des mercenaires. Je frapperai le pasteur et le troupeau sera dispersé, avait prophétisé notre Seigneur. Il l'a dit juste avant sa passion, mais on peut l'appliquer parfaitement à la passion de l'Église. Alors notre Seigneur ne reste pas là. Il continue et il dit, en répétant à nouveau « Je suis le bon pasteur », il va donner une nouvelle qualité essentielle du bon pasteur. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Le bon pasteur a une connaissance intime de tout son troupeau et de chacune de ses brebis. C'est pas, là encore, une connaissance en vrac. Il connaît ses brebis nominatimes. Le mot vient un petit peu plus loin dans le texte de l'Évangile. Il les connaît, chacune par son nom. Il connaît son troupeau avant même que celui-ci ne le connaisse et ne le reconnaisse, ne reconnaisse sa voix. Et il faut dire que c'est parce qu'il connaît ses brebis, avec tout ce que cette connaissance inclut jusque dans l'ordre pratique, il les conduit, il les éclaire, il les nourrit, il les protège, il les soigne, tout cela, c'est à cause donc de ces choses, de cette connaissance tout à fait pratique, que ces brebis le connaissent. La raison pour laquelle nous pouvons connaître notre Seigneur, c'est parce que lui le premier nous a connus, au sens fort de ce mot connaître, nous a reconnus, nous a donné sa grâce et a fait de nous les chrétiens que nous sommes. Et quel est le modèle de cette connaissance réciproque ? De même que mon Père me connaît et que je connais le Père, dit notre Seigneur. Voilà le modèle. Les relations de notre Seigneur Jésus-Christ avec les siens sont tellement intimes, si profondément surnaturelles, qu'elles sont comparables à certains égards à celles qui l'unissent personnellement à son Père céleste. Peut-on imaginer pour les âmes un statut plus noble, une destinée plus sublime ? D'autant que notre Seigneur ajoute une nouvelle fois « et je donne ma vie pour mes brebis ». Et ça revient comme un leitmotiv. Le prix que lui a coûté cette union des âmes avec lui et leur élévation à l'ordre surnaturel, ce prix, c'est son sacrifice. C'est le don de sa propre vie par amour. Et la vue anticipée de cette mort, puisque en évoquant ce sacrifice, notre Seigneur ne peut pas y penser, nous sommes à quelques jours de sa passion, donc la vue anticipée de cette mort qu'il va bientôt subir pour le bien de ses brebis ouvre dans son esprit des horizons plus étendus. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. C'est une allusion à toutes les âmes disséminées, égarées à travers le monde païen, que les apôtres, les missionnaires, au cours des siècles, vont chercher à regrouper autour du bon pasteur dans son unique bercail, la Sainte Église. Ces âmes appartiennent à notre Seigneur. Elles sont siennes. Et il faut, le latin dit « oportet », il faut qu'il les amène à son bercail et qu'elles entendent sa voix. Il y a une volonté salvifique de notre Seigneur qui est universelle. Il veut le salut de toutes les âmes. C'est une grande prophétie de l'unité de la catholicité de l'Église. Alors il faut tout de même préciser que le bon pasteur ne gouverne pas son troupeau directement par lui-même. Il confie à des pasteurs humains qu'il a choisis la charge de paître son troupeau pour lui. Le texte ne le dit pas expressément, mais le texte le suppose, c'est évident. À côté du bon pasteur, il y a les pasteurs qu'on peut appeler par participation, tous ceux que notre Seigneur a choisis, qui doivent imiter son exemple, qui doivent eux aussi, à leur mesure, être de bons pasteurs, même s'ils ne sont pas le bon pasteur. C'est le rôle que Jésus a confié à Saint-Pierre et aux apôtres, et au-delà, à tous les évêques et à tous les prêtres de son Église. Mais il y a une grande différence entre ces pasteurs et le bon pasteur. Tous ces pasteurs ne peuvent pas dire que les brebis leur appartiennent, leur sont propres, oves proprie, comme cela a été dit du bon pasteur. À Saint-Pierre, en effet, si vous vous souvenez, Jésus dit « Pache oves meas, paie mes brebis, et non pas tuas, les tiennes ». Ce ne sont pas les brebis de Saint-Pierre, c'est celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il les confie à Saint-Pierre. Le Christ confie ses brebis au pasteur, il ne les leur donne pas, alors que le Père, lui, a donné les âmes à son Fils pour qu'elles soient siennes. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, dira en effet « J'ai gardé tous ceux que vous m'avez donnés », dit-il à son Père. Le Père donne les brebis à son Fils, les âmes. Mais Jésus ne les donne pas à ses pasteurs. Il les confie simplement. Et la conclusion logique de cela, c'est que l'Église n'est pas l'Église du pape ni celle des évêques. Elle est l'Église du Christ. Et le pape n'en est que le vicaire, le dépositaire. « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de Saint-Pierre. Ce n'est pas l'Église des papes. Et Saint-Pierre étant dépositaire, eh bien, il est chargé de conduire et de garder les brebis dans la fidélité à la doctrine et aux préceptes du bon pasteur. Il n'est qu'un dépositaire. Il s'ensuit que la condition essentielle pour que les pasteurs à qui Jésus a confié ses brebis soient de bons pasteurs, c'est qu'ils soient fidèles. C'est la qualité première qu'on attend d'un dépositaire. Notamment en transmettant fidèlement la foi qu'ils ont reçue. Vous le savez, c'est ce que le Concile Vatican I a défini lorsqu'il a parlé de la fonction des pasteurs dans l'Église, et spécialement du pape. Le Concile Vatican I, en citant d'ailleurs notre Évangile, explique que l'éternel pasteur et gardien de nos âmes, pour perpétuer l'œuvre de sa rédemption, a décidé de fonder l'Église, et il a voulu que dans l'Église, dans son Église, il y ait des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Et la charge qu'il leur a impartie, c'est de garder saintement et d'exposer fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Alors cela implique évidemment que les pasteurs aiment notre Seigneur avant toute chose et par-dessus tout. Pour eux, comme pour le bon pasteur, ce qui fonde leur charge, c'est l'amour de Dieu d'abord et l'amour des âmes. Et d'ailleurs, c'est ce que notre Seigneur lui-même a demandé à Saint-Pierre avant de lui confier la charge de paître ses brebis et ses agneaux. « Pierre, m'aimes-tu ?» Il l'a répété 3 fois. « M'aimes-tu plus que ceci ?»« Diligis me. » Et parce que Pierre a répondu « Oui, vous savez, Seigneur, que je vous aime », Jésus alors lui a conféré la charge de garder son troupeau. « Pache oves meas. » L'amour des âmes va de pair avec l'amour de Jésus-Christ, et c'est ça qui fonde la fonction de pasteur dans l'Église. Les âmes font corps, en quelque sorte, avec notre Seigneur Jésus-Christ. À travers elles, c'est toujours notre Seigneur que les pasteurs servent et aiment. C'est donc bien, vous le voyez, l'amour de charité qui fait le bon pasteur, le fait qu'il aime les brebis de manière désintéressée, comme âme et pour Dieu. Il y a là beaucoup plus que le simple don de l'amitié naturelle. Il y a là beaucoup plus que l'affection parentale. Et entre parenthèses, c'est cela qui explique le célibat sacerdotal. Pour se donner vraiment, d'une manière totalement désintéressée, au service de notre Seigneur et des âmes, il faut que le cœur ne soit pas partagé. Si le prêtre ne fait pas cela, si son ministère pour les fidèles n'est pas l'incarnation et l'action prolongée de celui qui est l'unique bon pasteur, le sauveur des âmes, alors il n'est qu'un mercenaire qui néglige le soin des âmes pour s'occuper de ses intérêts privés. Et hélas, dans l'histoire de l'Église, il y en a eu. Et il y en a encore aujourd'hui. Pour comprendre ce que notre Seigneur attend et demande de ses pasteurs, on peut se reporter au petit psaume numéro 22, le psaume 22, que vous connaissez sans doute parce qu'on l'a souvent dans l'année liturgique, notamment le jour de la fête de Dieu. Ce psaume offre en quelque sorte un petit commentaire de l'allégorie du bon pasteur. C'est un psaume qui parle justement du pasteur et des brebis. Dans ce psaume, c'est David qui parle. David ici est l'image, la figure des brebis. Il parle au nom des brebis. Et voici ce qu'il dit. « C'est le Seigneur qui me conduit et rien ne pourra me manquer. » Vous voyez, c'est le bon pasteur qui conduit les âmes, qui conduit les brebis. Et au-delà du bon pasteur, ce sont les pasteurs à qui il a délégué cette charge. « Il m'a établi dans un lieu de pâturage, il m'a amené près d'une eau fortifiante. » Ces pâturages, cette eau fortifiante, c'est la doctrine. Le rôle des pasteurs, c'est d'enseigner la doctrine. Et c'est de donner l'eau fortifiante, c'est-à-dire l'eau de la vie, de la grâce. La vie, l'eau vive de la grâce. Il a fait revenir mon âme. Il m'a conduit par les sentiers de la justice à cause de son nom. Faire revenir les âmes, convertir les âmes, les ramener à Dieu quand elles s'égarent dans le péché. Par la gratia sanans, comme on dit, la grâce qui guérit, qui relève, qui ramène à Dieu, qui convertit. Aussi, quand même je marcherai au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car vous êtes avec moi, votre houlette et votre bâton m'ont consolé. Encore un rôle du bon pasteur et de tous les pasteurs qui dépendent de lui, conduire les âmes par les sentiers de la justice, les garder dans les dangers et les conduire dans la voie de la sainteté, les protéger dans les périls et les tentations, les guider par la houlette c'est le bâton du berger qu'il tient à la main quand il conduit son troupeau. Cette houlette désigne la juridiction, le gouvernement des âmes. Dieu confie au pasteur le gouvernement des âmes. Vous avez préparé devant moi une table en face de ceux qui me persécutent, vous avez oint ma tête d'huile et que mon calice enivrant est admirable. Cette fois, c'est l'image des sacrements. Le prêtre, le pasteur, a pour rôle de paître le troupeau, de l'enseigner, de le gouverner et aussi de le sanctifier, spécialement par les sacrements, par la grâce sacramentelle. La table, le calice, l'huile, tout cela évoque les sacrements. Et enfin, « Et votre miséricorde me suivra tous les jours de ma vie, pour que j'habite dans la maison du Seigneur durant de longs jours. » C'est l'image de l'éternité. Le rôle du prêtre, du pasteur, c'est d'obtenir la persévérance finale pour les brebis, par sa prière notamment, de telle manière que ces brebis connaissent au terme de leur vie la vision béatifique du ciel. Alors en conclusion, d'abord, prions. Il faut prier pour les pasteurs. Nous avons de mauvais pasteurs. C'est peut-être de notre faute. C'est peut-être parce que nous ne méritons pas mieux. Peut-être parce que nous ne prions pas assez pour avoir de bons pasteurs. Des pasteurs selon le cœur de Dieu. Et puis, dans le contexte actuel, quelle doit être l'attitude des brebis qui n'ont plus de bons pasteurs ? Je frapperai le pasteur et le troupeau sera dispersé. Il est bien dispersé aujourd'hui, le troupeau. Don Guéranger a écrit un petit texte que vous connaissez sûrement. Dans sa notice sur Saint Cyril d'Alexandrie, le 9 février, dans l'année liturgique, la notice est assez longue, je ne vous la lis pas, vous pouvez vous y reporter. Don Guéranger fait allusion au personnage de Nestorius, qui égarait les âmes, alors qu'il était un personnage très important. Et alors, les catholiques de son époque, de son temps, ont réagi vigoureusement et l'ont dénoncé auprès de l'autorité qui a donc condamné Nestorius au concile d'Éphèse en 431. Alors, Don Guéranger profite de cette occurrence pour dire ceci. Quand le pasteur se change en loup, c'est au troupeau à se défendre tout d'abord. Régulièrement, sans doute, la doctrine descend des évêques au peuple fidèle, et les sujets dans l'ordre de la foi n'ont point à juger leur chef. Mais il est dans le trésor de la révélation des points essentiels dont tout chrétien, par le fait même de son titre de chrétien, a la connaissance nécessaire et la garde obligée. Le principe ne change pas, qu'il s'agisse de croyance ou de conduite, de morale ou de dogme. Alors, Don Guéranger explique que les trahisons, comme celle de Nestorius, sont relativement rares, encore qu'aujourd'hui, on peut se demander si c'est si rare que ça. Il y a bien des pasteurs aussi qui, en cas de crise, restent silencieux, alors que la religion est engagée. Alors, que doivent faire les vrais fidèles? Les vrais fidèles sont les hommes qui puisent dans leur seul baptême, en de telles conjonctures, l'inspiration d'une ligne de conduite. Voilà, la ligne de conduite qu'il faut adopter. Et non pas les pusillanimes qui, sous le prétexte spécieux de la soumission au pouvoir établi, attendent pour courir à l'ennemi ou s'opposer à ses entreprises un programme qui n'est pas nécessaire et qu'on ne doit point leur donner. N'attendons pas, puisons dans notre baptême cette force, cette lumière qui nous permettra de garder la foi, de prier comme nous devons prier, de bien éduquer vos enfants, de bien continuer à recevoir les sacrements, de continuer à être catholique. Bien, c'est la grâce que nous demanderons tout spécialement au bon pasteur, à Notre-Dame, pour que dans cette conjoncture bien lamentable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous puissions néanmoins traverser cette période en restant parfaitement fidèles au bon pasteur et en l'aimant vraiment de tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.